pass, Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As it is hostile, and Lenny Wilkins leads the floor. And for the second time today, the visiting team have won the deciding game in an opening round series. Right now, let's go right over to JB with Michael Jordan.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission estampillée basket et culture NBA sur Radio Graphite, Compiègne 94.9, www.graphite.net. Money Time, l'émission capable de combler les déficits structurels des États et le déficit en vitamine D de votre organisme en plein hiver. Alors pour cette émission, j'ai eu la chance d'avoir des invités exceptionnels. Mon premier invité, c'est mon parrain, mais il pourra pas parler là. Est-ce qu'il va passer le micro ?
Si, si, de très très loin, je suis présent, t'inquiète.
Voilà, bon, bah, c'est Rémi. Donc Rémi, qui continue à me biberonner à Graphite. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Et puis, sachant qu'il enchaîne derrière avec Can You Dig It ?
Ouais, ça va le faire.
Voilà. Et puis, j'ai mon chroniqueur habituel, Mathéo, qui va nous parler tout à l'heure, je vous dirai, le sommaire de l'émission après avoir présenté mes invités. Et donner le sonneur de l'émission. J'ai un couple, mais c'est pas un couple vraiment, c'est deux copains qui vont représenter le nord de la France avec brio, j'espère. Vous avez la pression, les gars, parce qu'ici il y a quand même quelques ch'tis autour de la table, donc il va falloir rassurer. Je vous les présente juste après. Alors, au sonneur de cette émission, une spéciale hit culture. On va aller du côté de South Beach. On va toujours retrouver nos chroniques habituelles, le basket et WAM, ou l'histoire d'un basketteur lambda des années 90 à aujourd'hui. La chronique de Mathéo, 13 ans, un joueur une époque avec forcément un joueur emblématique de la Heat Nation, Dwayne Wade. On aura une rubrique spéciale, le sapin de Noël de Money Time, au pied duquel on va distribuer les cadeaux et les claques, parce que les claques c'est bon aussi, hein, ça fait circuler le sang. Notre rubrique, le buzzer beater, la question, le débat du jour. Aujourd'hui, Rémi Raquez Junior, nouveau représentant de la Heat Culture. D'ailleurs, c'est quoi la Heat Culture ? Donc sur ce programme alléchant, j'introduis mes deux invités. Attention. On va voir si les connaisseurs reconnaissent. Pareil, qu'il n'y a que Rémi qui a la ref. Hein ? Vous avez reconnu peut-être le générique de Deux flics à Miami. Ouais, Miami Vice en anglais. Parce que Deux flics à Miami, il faut le dire aussi, c'est le nom d'un sketch des nuls. Deux flics à Miami, entre guillemets. Ouais. Et puis je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je voulais au départ vous le mettre dans l'émission, mais il y a quand même quelques gros mots, donc je ne pouvais pas le faire. Je voulais pas choquer les bonnes consciences, mais une série emblématique des années 80 avec deux flics qui sont pas à Miami, hein, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs. C'est pas une. Wow. On va arrêter là. Ricardo Tubbs, donc c'est pas un gros mot, hein, c'est vraiment son nom. Alors après Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, Ekel et Jekyll, Jackie et Corbier et David et Jonathan, j'introduis donc mes deux invités, le dernier duo à la mode, Romain et Merlin. Salut les gars.
Salut, salut.
Salut.
Tout va bien ?
Ça va, nickel, ouais. Ouais. Depuis Lille, on est venu.
C'est chouette.
C'est Compiègne, c'est
d'accord,
cool.
C'est
merci
bien.
Pour l'invitation.
Ouais, ils ont fait de la route, ils ont traversé la 1, le Styx.
Hein,
ce fleuve des enfers.
C'est
donc
ça.
Pour arriver jusqu'à Compiègne, mais sans trop de difficultés. Romain et Merlin, J'ai envie de vous poser comme question tout de suite, quels sont vos liens avec le basket ?
Et bah, si je commence, alors bah, moi c'est familial, hein, c'est le chroniqueur de cette émission qui est mon cousin qui m'ont fait découvrir ça un peu.
C'est nous en fait.
Pendant un été, c'était en période de play-off.
Alors c'est un été particulier.
Ouais, été de la bulle. Moi j'ai découvert le basket au moment de la bulle. Du coup, les play-offs 2020.
On pourrait récapituler un peu pour ceux qui n'ont pas accroché au basket NBA avant 2023 ou avant à cette époque-là. Ça se passe avec Rudy Gobert, il chope le Covid, il s'étale partout sur la table. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment inoubliable. En se foutant un petit peu du Covid, le lendemain, il est positif, il est testé positif. Catastrophe en NBA, la saison s'arrête, nos vies s'arrêtent. Parce qu'on pouvait arrêter de bosser, on pouvait arrêter de manger, de sortir, tout ce que vous voulez. Mais la NBA, quand ils l'ont coupé, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était un moment très difficile dans ma vie. Hein, Mathéo, il s'en souvient. Ouais. Donc, voilà, donc c'était dans une optique de faire perdurer le championnat malgré tout. Qu'est-ce qu'on a eu l'idée de faire ? Tu le sais, Merlin, un petit peu, ce principe ? Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans la bulle ?
Tout à fait. Alors, la NBA a décidé de réunir toutes les équipes NBA à un endroit, à Orlando, en Floride, pas très loin de Miami, dont on va parler aujourd'hui.
Ouais. Les ennemis.
Ouais. Donc, dans le complexe Disney World, où on a construit très rapidement plein de terrains de basket pour que les équipes NBA puissent continuer à jouer et nous ravir, nous, les fans NBA.
Ouais, alors saison très particulière parce que. Enfin, fin de saison très particulière parce que pas de public. Parce que des gens avec des masques, peu de gens qui avaient autour des masques. Les joueurs complètement isolés. Certains sont devenus à moitié tarés, hein. Donc, certains étaient déjà à moitié tarés,
ouais.
Mais pour d'autres, ça a été plus compliqué. L'autre
à
moitié
Miami,
est partie.
Ouais, il y en a eu des.
Voilà. On se souvient, comme on parle justement d'une spéciale hit culture, de. Tiens, Mathéo, que faisait Jimmy Butler dans sa chambre d'hôtel ? Tu peux nous expliquer ?
Je crois qu'il faisait des entraînements dans sa chambre.
Ouais.
Mais très dur, enfin.
Je crois surtout qu'à 2h du matin, il driblait dans sa chambre et ça réveillait tous les joueurs qui étaient à côté.
Ah ouais, le mec était en transe dans sa chambre. Ouais.
Ça, c'était l'activité la nuit parce que le jour avant l'entraînement, il préparait du café pour aller le vendre bien cher à tous les buveurs de café.
C'est ça, il a créé son truc, sa marque de café qui vendait, je crois, 25 euros la tasse. Cet enfoiré, c'est pas mal. Donc je vous le dis, les gars, si vous voulez vous lancer dans le business du café, demandez conseil à Jimmy Butler. À mon avis, vous n'aurez pas besoin de travailler très longtemps.
Non,
je suis pas si, on a vendu beaucoup.
Hein. En tout cas, il travaille sur le terrain en attendant.
Bon, on peut pas lui en vouloir, parce que derrière, effectivement, ça s'est plutôt bien passé pour Miami, mais on reviendra un petit peu sur ça après. Vous aimez... Donc toi, tu t'as parlé du basket grâce à l'influence familiale, dont on peut témoigner. Et Merlin, toi, c'est...
Bah moi c'est un peu la face opposée de la pièce, pas du tout de liens familiaux avec le basket, avec le sport en général, plutôt. Et du coup je suis arrivé au basket progressivement au lycée un peu, j'ai commencé à m'intéresser juste par curiosité sportive. Et c'est en 2018-2019, cette saison-là, je suis rentré en prépa et j'avais des potes qui aimaient bien le basket. Ils m'ont proposé de participer à la TTFL, la Fantasy League du média Trash Talk.
Ouais, ouais.
J'ai rejoint la TTFL avant même de m'intéresser au basket. Ça me faisait juste rigoler d'avoir un jeu, avoir des points et tout.
Ouais, ils font ça aussi en foot, je crois, enfin, dans pas mal de sports.
Ouais. Hein, les Fantasy League se sont beaucoup développés ces dernières années. Et du coup, à force de voir les scores des joueurs, je me suis dit pourquoi pas regarder les matchs pour de bon. Et donc, on a commencé à regarder les matchs dans les apparts des uns et des autres. Et voilà, aujourd'hui je suis accro, ça fait 3-4 ans là que je suis véritablement accro.
D'accord, tu suis donc régulièrement. Donc justement, pour vous, ça veut dire quoi le basket au quotidien ? Ou la NBA au quotidien, ça sous-entend quoi, Romain ?
Ça sous-entend un sommeil compliqué, du moins...
Tu regardes en direct donc.
Des fois je regarde en direct, après avec les cours, tout ça, regarder tous les matchs, souvent je me contente de la première, des deux premiers cartons.
Ouais. Qui donne le ton.
Qui donne le ton, quand le match est très intéressant, je finis tout le match, mais le lendemain...
ça pique
on le ressent quoi, ça pique.
Ouais, parce que ces deux jeunes hommes sont quand même étudiants. Donc Mathéo, toi t'as pas le droit, hein. T'es privé de basket, mais par contre, ils regardent quand même les matchs après coup avec le NBA League Pass.
Ça, c'est la révélation de notre saison. C'est notre raison de vivre désormais, au quotidien. Et toi, du coup, Merlin,
Un peu sur le même modèle que Romain, je m'endors progressivement devant les premiers matchs. Si je suis chaud et téméraire, j'arrive à rester jusque 3-4 heures du mat.
Ouais.
Parce que j'ai des horaires tranquilles à l'université, donc ouais. Ça va. Mais ça rime aussi.
C'est beau de voir ça.
Suivre la NBA intensément, ça rime aussi avec regarder les replays en cours le lendemain.
Ouais. On n'a rien sans rien dans la vie, il faut savoir se donner les moyens de ce qu'on veut réussir à faire.
Hein. Tout à fait. Donc je m'excuse auprès de mes profs, mais j'arrive à faire deux choses en même temps, j'écoute et je regarde en même temps.
De toute façon, on saura très rapidement, il te reste combien d'années. Alors combien il vous reste d'années d'études, les gars, là, pour avoir une idée ?
Moi, il me reste 6 mois, à vrai dire, demain, c'est mon dernier jour à l'université, parce qu'en janvier, je commence un stage de fin d'études.
D'accord.
Donc, c'est la dernière demain.
D'accord. Donc, tu peux dire aux auditeurs ce que tu fais ?
Je suis à Sciences Po Lille en dernière année, deuxième année de master de communication.
Ouais, grosse pointure, du coup. Et Romain ?
Et moi, je suis en pharmacie et il me reste...
Tu fabriques de la meth, c'est ça ? Tu fabriques de la meth.
Ouais, c'est ça, je fabrique de la meth, toute substance, non, pas du tout.
Non, c'est une blague, hein, pour les...
pharma, et ouais, il me reste 2 ou 3 ans. Ça dépend
des, 2-3 ans. Masters, bon, toi, dans 2-3 ans, on saura si t'as raté ta vie à cause du basket NBA, et
c'est
toi,
ça.
On va le savoir très rapidement, visiblement. Ok.
Je touche du bois.
Ouais. Bon, alors, justement, alors, on va partir un petit peu. Là, je vous propose, moi, pour commencer cette émission, une chronique qu'on a installée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le basket est one, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre le basket dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera sur le thème I wanna be like Alexandre Robillard. Vous n'avez pas la ref, mais on va vous le donner. Hein, on va vous la donner. Dans le dernier épisode, vous avez découvert comment un être curien disposé génétiquement à devenir basketteur, qui n'avait pas été mordu par une araignée radioactive, avait été conduit par le destin, ou plutôt contraint par sa mère, à s'essayer à ce sport merveilleux mais étrange qu'est le basket. Car après tout, faire passer une sphère dans un cerceau, c'est soit une jolie métaphore, quoiqu'un peu simpliste, de l'acte sexuel, soit une activité de psychomotricité basique qu'on donne aux gamins en petites sections de maternelle pour connecter quelques neurones. Vous le savez peut-être, l'expérience tourne à court et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais si ça avait été le cas, cette émission n'existerait pas. Et qu'auriez-vous alors fait à cette heure, chers auditeurs ? Des cannellonis ? Des pancakes ? Des bêtises ? Nous sommes quelques années plus tard. Je suis au collège, en 4e, comme toi, Mathéo. La déferlante Team USA s'est abattue sur l'Europe et a laissé Barcelone et nos contrées françaises ravagées par Michael Jordan et ses copains, qui ont distribué les fessées aux sélections adverses, comme Monsieur Chautin, mon prof de français, les heures de colle parce que la date n'était pas soulignée en rouge, et placé 3 carreaux après la marge. Dans ma classe, tous mes potes supportent une équipe NBA. Art Breteau, les Suns de Phoenix parce que Charles Barkley vient d'y poser ses grosses fesses, et qu'il bénéficie de la hype du moment. Pietrowski, les Pistons de Détroit et leur équipe de tueurs en série parce qu'il défend bien mais qu'il ne sait pas scorer. Le Moine, les Lakers parce qu'il a plein de thunes et que c'est un frimeur comme eux. Même le Jazz et les supporters, parce que c'est le maximum pour cette équipe. Avec Veloso, le seul type à vraiment avoir réussi à garder un match d'Utah jusqu'au bout sans s'endormir, bercé par le pick and roll monotone du duo Stockton-Malone. Moi, je supporte San Antonio, parce que David Robinson me ressemble. 115 kilos de muscle, le long de 2m16, et que nous allons tous les deux à la messe le dimanche. Mais enfin, c'est surtout sur ce point qu'on se ressemble. Tous les jours, avant d'aller ingurgiter une spécialité locale absurde prodiguée par la cantine la plus infecte du Grand Nord, des pâtes au pâté, véridiques, ou des œufs de poule lyophilisés, les poulains, pas les œufs, nous courons à toute berzingue vers l'un des terrains bitumés disponibles du lycée avec cet énorme ballon qui nous encombre toute la journée et que nous oublions moins volontiers que le manuel de maths. Et c'est alors parti pour des matchs endiablés avec en bande son des commentaires piqués à George Eddy, la voix de la NBA sur Canal+, lancé avec un accent américain grotesque. Le gars comme John Birkin, il vit en France depuis 30 ans et il fait toujours pas le différence entre la masculin et la féminin. Toute cette emphase ridicule donne l'illusion que chaque panier réussi est décisif. On se chambre, on s'insulte, on rigole, on se blesse une fois sur deux et on transpire. Énormément. Nous, on s'en fout quand on arrive en cours avec la tronche plus rouge qu'un chasseur après l'apéro de 10h. On sent pas notre odeur, à la différence des adultes qui sont enfermés avec nous. On croit même que les filles adorent ça, des mecs virils qui transpirent, alors qu'en fait, on n'est pas viril et qu'on pue. Pourtant, les filles se retrouvent régulièrement autour du terrain. Je suis certain que c'est pour me voir, parce que je suis sexy et que je joue bien. Mais en réalité, c'est pour mater le petit cul d'Alexandre Robillard, en première, qui fait fondre les plus belles filles des environs en leur balançant son regard sombre du haut de son 1m90, tout en mastiquant son chewing-gum avec tellement d'intensité qu'il porte certainement un dentier aujourd'hui, ce bouffon. En plus, il joue drôlement bien, ce con. Lui et Sébastien Keck, ce sont un peu les Jordan et les Magic Johnson du lycée Albert Châtelet. Tu peux pas être pour l'un et aimer l'autre en même temps. Kleck a 18 ans et Dunk, cet enfoiré. Et facile en plus, pas comme tous ces blaireaux qui touchent l'anneau péniblement et réussiront peut-être un jour à l'accrocher au mieux, et puis c'est tout, condamnés à perpétuité à répéter ce geste inutile pendant les échauffements. Ces mêmes gars qui portent des poids aux chevilles sous leurs jeans, en croyant qu'après un mois à soulever péniblement leur godasse, ils auront le hang time de Jordan. Moi j'ai vite compris que je ne dunkerai jamais. Alors je me suis vite mis à shooter avec plus ou moins de réussite selon le coefficient de marée, les cycles de la lune ou l'évolution des cours du baril de pétrole. Kleck dunk, donc. Eh bien, mais son jeu se résume à ça. Robillard, lui, est un vrai basketteur, pas simplement un type avec de la dynamite dans les mollets. Il shoot, il pénètre, il défend. Avant de devenir Jordan, je veux devenir Robillard. Mais nous n'avons pas les mêmes gènes et mon jeu restera ce qu'il est dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui. Toi, le quarantenaire qui écoute cette émission, avoue-le, comme moi, hein, Rémi ? Tu t'es pris pour Michael Jordan. You wanted to be like Mike. Toi aussi, si tu as plus de 30 ans, tu as tiré ta langue en dribblant, tu t'es acheté la mythique paire de Air Jordan 7 noirs en vendant un rein, ou plutôt celui de ton père ou de ta mère. Tu as cru que planer était dans tes cordes et que rejoindre la NBA était envisageable avec ce que la nature avait consenti à te donner comme talent. Tu as eu ce poster grandeur nature du numéro 23 des Bulls ou du 9 de Team USA publié dans Feu Mondial Basket, qu'il t'a fallu accrocher en renonçant à la moitié de tes affichages dans ta chambre, au pire, au détriment d'André Agassi, ou au mieux, à un poster de Milli Vanilli ou de Vanilla Ice. La vanille, c'est dangereux en musique. Car après tout, cette liste, ce fut le destin de tous ces gamins des années 90, cible marketing privilégié de Nike, Sega, Powell, Peralta, Chevignon, Crix, et tu engueules aujourd'hui tes gosses parce que tu les trouves superficiels. Honte à toi, honte à moi. Shame on you, comme l'a scandé une grande penseuse de ces années-là, Ophélie Winter. Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite Compiègne 94.9, www.graphite.net, et l'émission qui est recyclable en podcast sur le site. Money Time, l'émission qui rend fou de jalousie ESPN, et que TF1 envisage même en prime time le samedi soir en remplacement de The Voice.
Marty, tu as pu venir.
Oui.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait?
Toutes les questions recevront une réponse. Filme. D'accord. Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps. Allez.
Un joueur, une époque, la chronique de Mathéo. Maintenant, aujourd'hui, avec Mathéo, on monte dans la machine à remonter le temps. Et on va explorer les années 2000 avec le joueur le plus mythique du Heat de Miami, celui que Jacques Monclar a révélé être son joueur préféré. Hall of Famer en 2023, l'immense, l'ultra spectaculaire, le bien surnommé Flash par Shaquille O'Neal, Dwayne Wade. On est donc en 2003, et la draft est attendue avec un niveau comparable à celle de cette année avec Wemby. Mathéo, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe ?
En 2003, il y a LeBron James qui est attendu comme le futur Michael Jordan. Et pas que, il y a aussi Carmelo Anthony qui fait taper dans l'œil. Il y a aussi Chris Bosh, mais aujourd'hui on va parler de Dwayne Wade, qui aussi était un très bon joueur.
Joueur excellent.
Excellent.
Surnommé.
Qui était aussi attendu comme un très bon joueur. Il n'a pas été sous-estimé. Et donc, LeBron James.
Alors, il est choisi numéro 1. Le surnom de LeBron James à cette époque, vous le savez, hein, les gars, à côté. Là. Non. The Chosen One.
Ah, mais oui, ouais, ah,
l'élu, quoi. Okay. Donc, toute la NBA. Alors, il y a Kobe Bryant à cette époque-là, qui est quand même. Qui est déjà une immense star avec les Lakers. Mais c'est vrai que derrière Kobe Bryant, Allen Iverson, la NBA attend toujours quand même celui qui va normalement renouveler entre guillemets la hype qu'il y a eu autour de Jordan. Et c'est vrai que cette draft de 2003, elle est hyper attendue. Et donc, tu parles de Wade. Wade n'est pas au même niveau de hype que ces joueurs-là. Il sort de quelle université, Mathéo ?
De Marquette, l'université de Marquette, la même que Jimmy Butler, du coup, aujourd'hui.
Du coup, il y a une Marquette Connection à Miami, quand même.
Ouais, qui est quand même une bonne université. Donc, Dwayne Wade, il est drafté en 5e position par le Heat. Et il va prendre rapidement ses marques. Donc Miami, c'est quand même une équipe où il va rester fidèle jusqu'en 2016. Il va signer un contrat avec Chicago.
Ouais, alors on en reparlera après. Ça, c'est plutôt vers la fin de sa carrière. Mais c'est vrai que c'est une histoire. En fait, il a fait le gros de sa carrière à Miami. Pourtant, au départ, il n'est pas super attendu. Il arrive dans une équipe. Est-ce que vous avez une idée un petit peu des joueurs qu'il y avait à cette époque-là à Miami quand il arrive en 2003?
Bosch, il était déjà là ou pas?
Non, Bosch était à
la même draft.
La même draft. Okay. Mais il commence à Toronto, Chris Bosch. Mais à cette époque-là, il y a Lamar Odom, par exemple, qui joue à Miami, qui va finir aux Lakers dans un échange dont on va parler, hein, Mathéo, dont tu vas nous parler justement. Cet échange qui va tout changer, puisque Wade fait une bonne première saison.
Bah, il fait une première saison avec donc ses stats, c'est 16,2 points, 4 rebonds et 4,5 passes décisives.
Donc c'est bien, mais c'est pas non plus...
Bon rookie, on se dit que ça va être un bon joueur plus tard, mais on n'attend pas non plus de lui va devenir après.
Exactement, donc il y a les playoffs quand même, Miami joue les playoffs cette année-là, difficilement, il se qualifie. Et là, Wade, il franchit un petit palier quand même déjà en playoffs, il monte le bout de son nez. Il est à peu près à 20 points de moyenne, si je ne dis pas de bêtises.
C'est surtout après qu'il explose vraiment. La saison suivante. Il explose avec plus de 20 points de moyenne.
Plus de 23 points de moyenne.
Plus de 23 points de moyenne.
Deuxième saison.
Je ne sais plus, 6 passes décisives.
Ouais.
Enfin, il fait vraiment, vraiment l'unanimité. C'est à partir de 2005-2004 qu'on se dit que on pourrait baser l'équipe de Miami tout autour de Dwayne Wade.
Ouais.
On se dit que ça va être lui le pilier de l'équipe maintenant.
Pat Riley, dont on va parler un peu plus tard, va vite sentir va avoir le flair et de se dire que effectivement autour de cette pépite qui n'était pas attendue à ce niveau-là, il y a un coup à faire. Donc il va le faire très justement. Il y a Shaquille O'Neal à cette époque-là
qui joue
aux Lakers.
Il était déjà vieux quand il est revenu.
Mais, c'est-à-dire, il n'est pas vieux, mais il commence à amorcer son déclin statistique. Et c'est surtout qu'en fait, il est en bisbille avec Kobe Bryant. Il se bouffe la gueule avec Kobe Bryant aux Lakers. Ils ont eu beau avoir gagné 3 titres ensemble, si je dis des bêtises. En fait, O'Neal, il supporte plus Bryant et il a envie d'aller voir ailleurs. Il est très excité à l'idée de jouer avec Wade. Pat Riley fait le coup. Et donc, en 2006,
du coup, c'est Shaquille O'Neal qui arrive à Miami.
Alors, il arrive en 2005, si je ne dis pas de bêtises.
Il arrive à Miami.
Par contre, en 2006, année bénie pour les fans de Miami.
Oui, parce que...
Ouais.
La bague...
La bague, ouais. La première bague de la franchise. Parce
premier
que
titre.
On est quand même sur une franchise qui était assez jeune. Et donc, le titre de 2006... Alors, vous avez eu un petit... Vous êtes un peu au courant de comment sont passées les finales. Vous savez contre qui... Pour qui jouait Miami en 2006
On en a parlé dans la voiture justement. Je me demandais si c'était pas les Lakers.
Non, c'est pas les Lakers.
C'est pas les Spurs non plus.
Non, c'est les Dallas Mavericks.
Ouais, Dallas.
Voilà.
Ouais.
Alors il se passe un truc assez incroyable. C'est-à-dire que Dallas mène 2-0 et très largement, en tête dans le troisième match. Et on se dit que pour Miami, ça va être cuit parce que perdre 3-0, c'est fini. Hein. Donc on attaque le dernier carton. Je crois qu'ils sont en retard. Et là, Wade va prendre feu littéralement. il va enchaîner les paniers. Je vais terminer,
c'est,
je crois.
C'est là qu'on l'appelle le Flash, qu'on commence à l'appeler Flash.
Ah bah ça devient une légende à partir de ce moment-là. En fait, là, il se transforme. Là. C'est, si vous regardez Dragon Ball Z, il devient un Super Saiyan. C'est ça qu'on dit.
Super Saiyan.
Et en fait, il devient inarrêtable. Il va finir le boulot, c'est-à-dire qu'ils sont menés 2-0. Ils vont gagner la finale 4-2 avec un Wade à 39 points de moyenne, je crois, sur les 4 derniers matchs. Injouable. Tu fais faute sur lui, tu arraches les bras, il marque en même temps, il met ses lancers en plus. Il shoot à 3 points alors que c'est pas un grand shooter à 3 points, hein, historiquement. Et puis surtout, Dallas a la tête complètement sous l'eau. Et le titre de 2006, pour un fan de Miami, c'est certainement le plus beau titre. Okay. Enfin, si on a gagné après, on en parlera un petit peu. Mais voilà. Donc la légende de Wade, elle s'écrit à ce moment-là. Derrière, si tu résumes en quelques mots quand même ça... Sa carrière, si...
Après, il va rester à Miami très longtemps, jusqu'en 2016, où il va signer un contrat...
Mais il se passe quelque chose quand même, en
2012...
2012-2013, il y a LeBron qui est arrivé à Miami, et qui leur a fait gagner, et Chris Bosh aussi, deux titres.
Alors Wade s'efface, il a l'intelligence de s'effacer, parce que le coup réalisé par Pat Riley... en jingle dans cette émission où la décision de LeBron James de rejoindre Miami crée à l'époque un scandale. LeBron James qui est déjà pas très apprécié parce que il s'est pris quelques raclés en finale. On dit que c'est un joueur de stats. C'est vrai qu'il garde beaucoup la balle à cette époque-là. Il arrive à Miami, on se dit pour beaucoup les gens se disent il a besoin d'aller jouer avec Wade et Bosh pour gagner un titre, ce qui est pas tout à fait faux. Ça va rester l'équipe de Wade malgré tout. Mais James va faire des saisons incroyables à Miami et le Heat va jouer 4 finales en 4 ans, avec 2 titres quand même, notamment contre les San Antonio Spurs, il y aurait matière à parler autour de ça. Mais il va y avoir 2 titres et puis les blessures, le retour de LeBron James à Cleveland font que Miami, Wade va rester en Miami jusqu'à 2016, tu l'as dit, puis là c'est la fin un petit peu en saucisson.
Là pour les fans de Miami, c'est un peu la catastrophe parce que Dwayne Wade il part à Chicago. Et donc,
sa ville natale.
Ouais, sa ville natale, et il va rester juste un an. Et après il va se diriger vers Cleveland, histoire de retrouver son pote de toujours LeBron James. Et LeBron James qui quittera l'année prochaine Cleveland pour les Lakers. Ouais.
Et là, réconciliation.
Dwayne Wade n'eut d'autre choix que de retourner dans son équipe de cœur, Miami.
Voilà, il va terminer sa carrière là-bas.
Sa dernière année, du coup, 2019.
Ça, avec quelques matchs d'anthologie, on se souvient de ces derniers matchs, dont un game winner incroyable à Golden State.
À Miami.
Il me semble que c'est à Miami et qu'après
il monte sur la table
de Marc.
Ouais, exactement.
Ça la foule.
On l'a fait regarder en direct le match avec Matteo Somacia. Ouais. Et il se fait contrer sur la dernière action, il se fait contrer par Draymond Green.
Par Kevin
la balle
Durant.
Lui revient.
Il me semble.
C'est pas
Il me semble que c'est Kevin Durant qui le bloque.
Ah ouais, c'est Kevin Durant.
Il chope le rebond sur le contre.
C'est ça, et il balance la balle, une prière à 3 points. La balle filoche, elle tape sur la planche, elle rentre, 3 points, il gagne sur ça. Et c'est vraiment une belle façon de clore cette histoire de Dwayne Wade, parce que c'est un peu ce qu'on garde aussi souvent, ces paniers décisifs. Vous l'avez vu jouer, vous, Dwayne Wade, les gars?
Un petit peu perso, mais surtout par le biais des vidéos YouTube, des best-of, parce que en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au basket, il était à Cleveland, et ça jouait pas des masses.
Non, c'était pas fou, ces années.
Donc, pas trop en live.
Ouais.
Mais forcément, j'ai rattrapé mon retard. Je me suis refait une petite culture basket en regardant des vidéos best-of.
Allez voir les highlights de Dwayne Wade. Il y a des dunks. Alors, pour résumer son jeu, un jeu très physique, très rapide. Il a été longtemps très, très rapide, balle en main. Il était capable de passer. C'est un excellent défenseur, par exemple. C'est l'arrière qui a fait le plus de contres en carrière.
Okay.
Devant Michael Jordan. C'est à préciser quand même.
Statistique.
Donc il était à un compte de moyenne pour un arrière, c'est exceptionnel, hein, on voit rarement ça. Très spectaculaire, une détente hallucinante, des posters dunk dont un, je vous oblige à aller voir, chers auditeurs, c'est mettez dunk Wade Anderson Varejao, qui joue à Cleveland à cette époque-là. Et c'est d'une violence, même le bruit, on a l'impression que c'est un coup de fusil à pompe. Cette action est incroyable et résume bien qui était Dwayne Wade. En plus, un chic gars quand même.
Hein, qui... Et surtout, il n'est pas très grand.
Ouais, c'est vrai. Pas très grand, 1,93. Donc à 93, oui, bon bah pour moi, oui,
pour nous,
c'est grand, on est d'accord.
Le commun des mortels.
Ok, c'est... mais en NBA à 93, effectivement, donc c'est pour ça que c'est encore plus spectaculaire à regarder quand tu vois des mecs de cette taille-là dunker sur des gars de 2,15 m, voire plus. Hein, c'est que ça vaut quand même le coup de regarder ça. T'as quelque chose à nous dire pour terminer, Mathéo, sur ta chronique ?
Bah à part qu'il est rentré dans le Hall of Fame cette année avec Pat Riley.
Pat Riley, il est rentré cette année ?
Bah oui.
Hein ?
Ouais.
D'accord.
Pat Riley, il est rentré.
Avec Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki, Tony Parker. Tony Parker. Ouais. Ils sont rentrés. Et donc, voilà, c'est fini.
Ok. Bah, merci pour ta chronique, super. On fait une petite pause avec un petit morceau qui sent bon les années 80. Alors, les années 80, j'entends, c'est un morceau des années 90. Mais ça va peut-être te parler, Rémi. Pourquoi tu choisis ce morceau ? Parce qu'on a parlé de Deux flics à Miami tout à l'heure et le clip de ce morceau, Sabotage, des Beastie Boys, parodie en fait les séries policières des années 80. Donc c'est un très très bon titre. Je vous laisse écouter ça le temps d'une petite pause. Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite Compiègne 94.9 www.graphite.net. Money Time, l'émission qui pénètre en profondeur et nettoie les taches les plus incrustées grâce à son principe actif à base de coolitude. Vous l'entendez, c'est bientôt Noël. Dean Martin nous susurre de bons moments en perspective autour du sapin. Et je vous propose pour cette troisième émission et de parler justement de sapin de Noël. On s'occupe des cadeaux cette année à Money Time. Et je vous propose plusieurs petites rubriques. On pourra pas passer en revue toutes les équipes NBA évidemment, mais j'ai sélectionné quelques-unes avec, on va dire, des catégories. On va commencer par des cadeaux au pied du sapin pour les enfants sages. Avec deux équipes qui me viennent en tête. Les enfants, ils sont jeunes. Alors je vous propose OKC à l'ouest et Orlando à l'est. OKC, c'est la franchise du futur, c'est un modèle de reconstruction réussi. Orlando, c'est la fête à Mickey. Enfin, pour l'instant. Je vous écoute, les gars.
Ah, bah, moi, OK, ici, je suis très emballé. Ça me fait plaisir de parler d'eux. Je les regarde vraiment beaucoup cette saison. Faut dire qu'ils pratiquent un basket très, très séduisant à regarder. C'est vraiment génial.
C'est un bel effectif, déjà. Hein. Ouais.
Déjà, bien construit. Avant cette saison, ça, c'était extrêmement prometteur. Ils échouent de peu au play-in tournament, ouais. Il me semble.
Autant vous dire que cette année, ils ne devraient pas passer par la case play-in. Hein.
On touche du bois pour eux, mais c'est vrai que ça devrait pouvoir être évitable. Et l'intégration de Chet Holmgren, pour moi, c'est vraiment un modèle tout court à la fois de sa part. Lui, il parvient à venir s'incruster dans ce collectif qui tournait déjà bien sans lui.
Après un an de blessure quand même, il faut le rappeler, hein, il était attendu l'année dernière comme une star numéro 1 de la draft, hein, si je ne dis pas de bêtises l'année dernière. Mm-hmm. Il n'a pas joué du tout, et cette année, effectivement, tu le dis, tu te soulignes, tu as raison, ils se font parfaitement dans ce collectif.
Mine de rien, peut-être que cette saison blanche, ça lui a un peu servi, au moins sur le plan mental, ouais, émotionnel, pour bâtir une relation de confiance avec ses coéquipiers, ce qui a quand même fait les déplacements. On a quand même, il y avait cet esprit d'équipe déjà.
On se demandait s'il serait NBA ready, parce qu'il a un physique quand même très atypique. Hein. On parle beaucoup de Chet Holmgren parce qu'on l'oppose entre guillemets à notre Wemby national.
Après, ils n'ont pas le même âge. Il y en a un qui est un peu plus vieux que l'autre.
Et il y en a un qui est plus mature aussi quand même dans son jeu, parce que si tu regardes Chet Holmgren, il y a beaucoup moins de déchets. Ses pourcentages sont largement supérieurs. Alors après, on peut débattre. Hein, quand on voit le désert qu'il y a autour de Wemby dans le Texas, il n'y a pas que le désert géographique, hein, y a aussi vraiment le désert en termes de
coéquipiers. Au sens propre et sens figuré, c'est clair.
Vraiment, donc, mais Holmgren, il fait des stats incroyables. Hein, il a fait deux matchs de suite à plus de 7 contre, je crois.
Ouais, non seulement il est ultra présent défensivement, statistiquement, c'est époustouflant, mais ça se ressent aussi dans le jeu, visuellement, la sélection de shoot, le placement. Ça sent une maturité qui est assez exceptionnelle pour son âge, ouais, je trouve. Et c'est ce qui rend en fait cette équipe vraiment...
Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Shai Gilgeous-Alexander. Romain,
c'est monstrueux. C'est... Depuis le début de la saison, c'est exceptionnel. Quoi. Au niveau des points, il score...
C'est la régularité qui est impressionnante.
C'est ça, ouais.
Parce que la dernière, il était déjà à 30 points de moyenne. Hein. C'est quand même, il a fait une énorme saison l'année dernière. Mais cette année, il fait des stats similaires, voire plus importantes. Mais son équipe gagne en plus, donc c'est vraiment...
C'est ce qu'on se disait dans la voiture tout à l'heure. Je pensais qu'il était arrivé un peu à son maximum sur l'année dernière. Ouais. Et finalement, là, cette année, il est stratosphérique.
Ouais,
quoi.
Il est encore jeune.
On disait qu'il prend des shoots qui passent à chaque fois. Il est indéfendable.
Ils doivent être contents, les Clippers, de l'avoir laissé partir.
Ouais, hein, c'est clair.
Mathéo, toi, tu as un joueur aussi que tu aimes bien, OKC, qui t'enthousiasme, mais qui ne fait pas une super saison pour l'instant, parce qu'il est dans des... il est un peu poursuivi par une sombre affaire de relation avec une mineure, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est
Josh Giddey.
Ouais, Josh Giddey, hein, meneur de grande taille australien, hein, qui faisait une très très bonne saison aussi l'année dernière. Alors, il fait quand même... Il reste présent. Puis, évidemment, l'intégration de joueurs qui arrivent à maturité, comme Chet Holmgren, par exemple, ça redistribue aussi les cartes dans une équipe. Donc, les mecs ne peuvent pas aligner les mêmes stats, forcément. Mais voilà. Donc, ça, c'était notre côté ouest. À Orlando, vous pensez quoi d'Orlando? Vous les avez vus jouer? Ouais.
Alors, c'est une équipe qui, comparée aux années précédentes, a quand même bien élevé le niveau. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a des individualités très fortes. Je regardais dimanche dernier la performance de Banchero
contre Boston.
Ouais, plus de 20 points en premier quart-temps, 36 points sur le match.
Très impressionnant.
Au final, bon, ils ont perdu, mais ouais, c'est solide. Il y a Anthony Cole qui est très bon aussi.
Cole Anthony.
Cole Anthony, ouais.
C'est dans l'autre sens.
Voilà, bah, c'est ouais. solide quand même.
Oui, depuis... c'est pas Jaren Suggs aussi que je voyais pas l'année dernière. Je trouvais vraiment que c'était une arnaque ce mec. Et cette année, il fait vraiment une bonne saison. C'est vraiment pas mal Orlando.
Après, France Wagner aussi.
Ouais, les frères Wagner effectivement qui sont bons. Donc ils ont un bon petit effectif. Jonathan Isaac qui revient aussi après une carrière qui est pour l'instant ravagée par les blessures, mais qui arrive va bien se fondre dans un collectif qui est correct. Je demande à voir, moi, sur le long terme. Là, on est à peu près au tiers de la saison. Ça commence à perdre un peu plus, là, déjà. Cette nuit, il y a un petit Orlando-Miami des familles, là, qu'il va falloir regarder.
Le derby.
Ouais, sachant que Butler est absent. Il s'est fait le mollet, visiblement. Okay. Sympa à regarder, donc bravo à eux. On passe à Ça sent le sapin, comme rubrique. Pour Golden State, qui est malade. Et ça, c'est pas la seule faute de Draymond quand même. Alors, il s'est passé un match incroyable cette nuit, vous l'avez vu, peut-être ?
Absolument. Ouais. Pour moi, en cours, rattrapé une énième fois. Voilà, ouais. J'étais obligé.
Tu pouvais pas rater ça. Ouais. Moi, j'ai regardé le résumé condensé en 10 minutes là, de Boston-Golden State avec une fin de match incroyable. Finalement, c'est Golden State qui gagne grâce à un Stephen Curry, mais incandescent. Boston, en ce moment, c'est une espèce de poids lourd qui roule sur une route de campagne, un chemin interbattu qui écrase tout le monde. C'est vraiment très impressionnant. La victoire est vraiment belle et je pense qu'elle leur fait du bien moralement. Mais outre les frasques de Draymond Green qui étrangle Rudy Gobert, qui tape, qui balance une droite à Yusuf Nurkic, on a quand même l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que l'équipe est un peu malade. Mathéo, t'en penses quoi ?
Ouais, je
fin
pense
de cycle
que...
pour Golden State ?
Non, quand même pas, je pense pas, mais... Après, ils font un peu le bazar, je trouve, Draymond Green.
Ah, il faut une sale ambiance, quand même. Hein. Ça commence à se sortir. Hein. Ouais.
Ben là, on sent qu'il y a une génération qui pousse et qui contraint les cadres en place dans leur retranchement. Je pense que Steve Kerr a fait les bons choix, là, tout récemment. Et je pense que la petite série de trois victoires, c'est forcément lié. On met Andrew Wiggins sur le banc, on met Podziemski titulaire, on met Kuminga à la place de Draymond Green.
Très bon cette nuit. Hein,
ça tourne beaucoup mieux. Mais même généralement, j'ai l'impression que l'ambiance, les joueurs ont plus le sourire. Je ne sais pas si c'est directement lié à l'absence de Draymond Green.
Il s'est quand même passé beaucoup de choses en interne. Et puis moi, ce qui m'embête un peu à Golden State, c'est que je trouve qu'ils ont longtemps couvert Draymond Green. Sous prétexte que c'est la famille, que c'est tous les titres gagnés avec Draymond Green, où il avait une influence incroyable. Et ça reste un joueur de basket incroyable. Sauf que là, les fils se touchent, font plus que se toucher. Là, il y a le feu quand même dans le cerveau de Draymond Green. Et je pense que malheureusement, au bout d'un moment, tu peux plus passer des frasques comme ça. Donc ils sont obligés de faire des choix. Et ils ont le matériel, visiblement, pour pouvoir le faire. Alors, on reparlera de Golden State parce que ça va être intéressant de voir comment réintègre Draymond Green. Est-ce qu'il y a le malaise Klay Thompson aussi, hein, qui a pas signé son contrat, qui est quand même un des cadres de cette équipe, une légende. Et donc ça, c'est pas tout à fait réglé, mais on en reparlera. On va passer à la section Le Père Noël est une ordure à Détroit, où l'esprit de combativité des Bad Boys a été enfermé dans un vase magique, clos par un sort pour les 250 prochaines années. Alors, Détroit. C'est la fin, là. Hein.
Détroit, ils sont en train d'enchaîner les séries de défaites, là. Je crois qu'ils sont à combien
24.
24, j'allais dire 23 et 24.
On dit c'est la fin, mais est-ce qu'il y a eu un début, même ? Je suis même
c'est,
pas sûr.
C'est bizarre, parce que c'est une équipe... Alors, je suis pas une bible du basket, mais je me disais que cette année, ils allaient pouvoir construire quelque chose, quand même. Il y avait quelques joueurs qui me paraissaient intéressants, qui allaient se développer. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas de révolte, il n'y a pas de... Et en plus, ce que je trouve dramatique à Détroit, c'est que c'est une franchise qui incarne certainement le mieux la dureté. On parle de Miami, de la hit culture, etc. Mais cet esprit de hit culture, pour moi, il est directement hérité de celui de Détroit, en fait. C'est comme si on avait délocalisé l'esprit de Détroit et qu'on l'avait mis à Miami. Et je pense que les fans de Détroit sont ulcérés, mais je pense à Mehdi. Spéciale dédicace qui doit chialer à chaque fois qu'il voit les résultats. Mais quand t'as connu les Bad Boys de Détroit, quand t'as connu l'épopée de 2003, le titre face aux Lakers avec Sean C. Billups, Rip Hamilton, etc., toute une ribambelle de grands joueurs, les jumeaux Wallace entre guillemets, comment tu peux arriver à ce niveau là c'est vraiment triste. Et ça interpelle, parce qu'il va falloir quand même faire un moment des choix et pas simplement tanker jusqu'à la fin de saison, parce que Les trois des jeunes vite sinistres à la base, mais alors là, maintenant, avec le basket...
Cette année, c'est encore plus compliqué que les années précédentes. Alors qu'ils avaient fait des choix, ils avaient essayé de parier sur leurs jeunes joueurs. Hayes,
Kylian Hayes, c'est quand même... Je suis désolé de dire ça, mais c'est quand même un gros bide.
C'est un gros bide, même si parfois il y a des performances un peu éclairs comme ça.
Oui, mais jamais dans des victoires en plus. C'est ce qui est un peu. C'est comme Kate Cunningham. Kate Cunningham, quand même numéro premier choix de draft, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Premier ou deuxième ?
Premier.
Donc, premier choix de draft, tu vois le mec aujourd'hui, 3 ans après son arrivée, si je dis pas de bêtises. Bon, il fait ses stats, 20 points, un peu plus de 20 points, etc. Mais aucune influence. Et j'en parlais avec Mehdi justement, qui me disait le langage corporel. Des Pistons, s'il est affreux, c'est-à-dire que les mecs ils baissent la tête quand ils arrivent sur le terrain, ils sont pas à l'aise.
Le moral est au plus bas.
Et Kate Cunningham, attention, le front office de Détroit, parce que moi je serais pas étonné que dès qu'il est agent libre, il en profite pour se barrer Fissa. Parce que la NBA se rend compte qu'il a un talent indéniable. Probablement l'un des seuls de cette équipe à avoir vraiment un talent durable.
Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Il y a Duren aussi, visiblement, qui est pas mal.
Duren, pas mauvais. Ouais. Même les Jaden Ivey, qu'on attendait beaucoup, qui à 17 ans était en équipe jeune et d'espoir, États-Unis.
Se méfier des prospects qui cartonnent. On a une dernière rubrique. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Père Noël. Je suis indisponible pour le moment, mais durant mon absence, c'est le Père Fouettard qui assurera l'intérim avec Cleveland. Avec un projet qui, selon moi, patauge, blessure en cascade. Là, on a quand même Darius Garland et Evan Mobley qui sont out. Des rumeurs de trade autour de Donovan Mitchell. On a l'impression que cette équipe, l'année dernière, le traumatisme de l'élimination des playoffs alors qu'ils étaient favoris contre New York, a laissé des traces. Et on commence à se poser la question de savoir si Donovan Mitchell ne va pas se faire la malle. Et est-ce que c'est vraiment un joueur qui fait gagner une équipe, Donovan Mitchell ?
Je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de minutes depuis le début de la saison. Il était blessé.
Non, Mitchell.
Dernièrement, il est revenu.
Il y a eu quelques
blessures. Quand il est revenu, il a marqué. Il a vraiment bien marqué. Il a fait un super match. Ils ont gagné d'ailleurs. Après, de là à dire est-ce qu'il est décisif ou pas pour une équipe, je pense que c'est un super joueur quand même. Il faut qu'il soit bien entouré.
Ouais, mais j'ai l'impression que dans la tête, il y a un problème de... Ouais, je sais pas, de corps. Est-ce que Garland et Mitchell peuvent jouer ensemble, par exemple ?
Moi, je suis pas ultra convaincu. Je pense que tout d'abord, il y a un problème de compatibilité physique. Les deux sont quand même très petits. Ça, c'est exploité en défense.
Défense, ça, toujours.
Tu peux pas le compenser juste par la présence de tours jumelles, Evan Mobley, Jarrett Allen.
Complètement d'accord avec toi.
Ok, c'est dissuasif, ça fait peur d'avoir ces mecs dans la raquette. Mais à l'extérieur, Donovan Mitchell, Darius Garland, ça vaut pas un clou en défense sur l'homme, sur les systèmes, ça se fait piéger. Moi, je trouve qu'il y a une incompatibilité à ce niveau-là. En attaque, ça tourne plutôt bien. C'est pour ça que je trouve ça un peu décevant. Pour Cleveland, pour leur défense, il faut pas oublier que leur 5 majeur, la moyenne d'âge, elle doit pas être beaucoup plus élevée que 25 ans. Je crois que Donovan Mitchell, c'est le plus âgé.
Ouais, c'est assez jeune. C'est assez jeune, mais... Même Jarrett Allen, j'ai l'impression que voilà, il a un peu son plafond et qu'il n'ira pas plus haut. Alors, ça demande confirmation, hein, mais pour l'instant, je trouve que voilà, on est un peu déçu Cleveland. Et je terminerai sur Memphis, où cette année, on est bien d'accord tous ensemble, on n'offrira pas de nerf à Ja Morant, d'accord ?
Non, voilà. C'est sûr.
Interdiction de jouer avec des armes même factices pour Ja Morant. Qui a fait quand même un retour cette nuit incroyable, puisque buzzer beater pour son premier match après sa suspension de 25 matchs, qu'il avait quand même bien cherché. Hein, il y a quand même aussi un moment où... Mais voilà quoi, donc Memphis du coup, sans Ja Morant, on se rend compte que... Pourtant...
Cette année, c'est compliqué. Parce que l'année dernière, il avait été suspendu pour quelques matchs, mais pourtant, ils arrivaient à rester, à se maintenir.
On s'était dit que Marcus Smart arrivant, ça allait peut-être quand même... Perdre Dylan Brooks, c'est quand même aussi un monsieur fusible qui fond facilement. Ça pouvait être compensé par l'arrivée de Smart, qui est quand même un joueur aussi...
Bon défenseur qui le remplaçait. Ouais.
Là, franchement, c'est pas fou.
Il y a un contexte qui est vraiment difficile aussi, je trouve, à Memphis. Beaucoup de blessures.
C'est vrai.
Steven Adams, Brandon Clark,
ça fait mal.
À l'intérieur, c'est un peu décimé. Au poste 3, on ne sait pas qui titulariser après le départ de Dylan Brooks. Je pense aussi qu'il y a des choix qui ont été manqués cet été par le front office.
Je suis assez d'accord.
Mais je suis assez optimiste avec le retour de Jamorant. Je pense que vraiment, là, cette suspension, la saison dernière, ils sont éliminés très tôt en play-off. Les gens oublient très vite, mais Jamorant, c'est vraiment une superstar qui a seulement 23 ou 24 ans. À mon avis, il peut transformer les trois quarts de la saison qui restent aux Grizzlies, et ça peut accrocher les playoffs.
Il va falloir bien cravacher. Hein. Ok les gars, écoutez, il va être l'heure de clore sur notre buzzer beater. Donc écoutez, on envoie Damien Lillard nous présenter. Sacré Damien et ses buzzer beaters légendaires. Aujourd'hui, notre buzzer beater, c'est Dis Papa, c'est quoi la hit culture ? Alors, prenez Los Angeles, on l'a dit, ses plages, ses palmiers, installez ça sur la côte Est, faites-vous livrer l'état d'esprit des Pistons de Détroit des années 90, avec comme management Vito et Michael Corleone, et mixez le tout avec un son latino. On est à South Beach, c'est parti, histoire d'une franchise. Les gars, la hit culture pour vous, c'est quoi ?
C'est l'entraînement.
Entraînement
acharné.
Ouais. Préparation physique de malade. Hein. Si tu arrives avec un indice de graisse au-delà de ce qu'on appelle la normale à Miami, c'est-à-dire 0% à mon avis, on te renvoie chez toi en te disant tu reviendras quand tu arrêteras de manger des burgers. Hein. Et donc il y a ça, il y a l'entraînement effectivement. Romain, la culture pour toi en quelques mots ?
Pour moi, la hit culture, c'est représenté par l'état d'esprit de Pat Riley. C'est vraiment la rigueur, une méthode bien, bien rodée, un sens de l'effort, du sacrifice. Tu l'as bien représenté avec ton analogie du caractère des Detroit Pistons. C'est un peu similaire. Il y a quand même un côté un peu plus foufou, je trouve, à Miami, ce côté.
Ouais,
on met le feu, il y a un sens du chaud quand même, plus présent à Miami qu'à Détroit. Ouais. Dwayne Wade, LeBron James et aujourd'hui Jimmy Butler l'incarne très bien, je trouve. Même si aujourd'hui, peut-être que ça en manque un peu, je trouve, ce sens du chaud, un mec qui est capable de péter
à Miami,
un peu.
À Miami, aujourd'hui, ouais. Tu trouves, ouais. Ok. Mathéo, toi, quand tu penses hit culture, est-ce que t'as des joueurs qui te viennent en tête représentant la hit culture ?
Jimmy Butler,
ouais,
déjà.
C'est quand même le...
Après, c'est tous les joueurs de Miami, je trouve, qui représentent bien, qui incarnent bien la hit culture. Et c'est vrai qu'il y a tous les joueurs...
C'est-à-dire qu'à Miami, tu rentres dans un moule, hein.
C'est ça.
Ou tu rentres pas d'ailleurs. Mais en général, soit tu sors du moule, on te façonne comme un joueur d'équipe, hein, ça a été le cas des Gabe Vincent, Max Strus plus récemment, soit on te formate pour devenir, ou on recrute des combattants. C'est pas une équipe, c'est une équipe qui développe beaucoup de joueurs. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les joueurs qui sont développés par Miami, ils vont ailleurs et ça va pas. Il y a plein de trades comme ça, de joueurs, de très bons joueurs à Miami.
Par exemple, il y a eu Gabe Vincent, Max Strus.
Qui fait une bonne saison à Cleveland, hein, Max Strus. Hein, il fait une saison tout à fait honorable.
Gabe Vincent, un peu moins.
Gabe Vincent, il est tout en blessé. Ouais. Hein, ouais.
Et c'était qui l'autre aussi ? Il y en a eu un autre aussi qui est parti de Miami.
Ils sont quelques-uns à avoir quitté le navire, mais bon.
Il y a eu Victor Oladipo, mais il est blessé.
Blessé aussi. Donc c'est vrai que, de toute façon, ça c'est le joueur maudit. Alors quelques joueurs comme ça, vous me direz si les noms vous parlent. Alonzo Mourning, Rémi.
Ouais. Comment ne pas connaître ? Hein. Évidemment.
Donc ça c'est ta jeunesse,
Alonzo Mourning.
Des contres à gogo, un pivot pas très grand, 2m08, mais qui tournait allègrement à 3,5 contre de moyenne, pour vous donner une idée. Dur au mal, on se souvient des bastons légendaires entre New York et Miami. Ceux qui les ont connus peuvent en témoigner. C'est là qu'est née aussi cette fameuse hit culture, parce que Pat Riley qui a repris le club à l'orée des années 2000. En fait, il faut se dire que c'est quand même l'inventeur du Showtime à Los Angeles. Ce qui est assez bizarre. Parce qu'on a les Lakers des années 80 qui jouent un jeu complètement débridé, 100% attaque, fun, spectaculaire, etc. Il arrive à New York, Pat Riley, il transforme l'équipe de Patrick Ewing en Detroit Pistons aussi. Hein, donc là, c'est vraiment des joutes physiques très compliquées qui seront de toute façon remportées par Michael Jordan à la fin, parce qu'à la fin, c'est toujours Michael Jordan qui gagne. Mais voilà, que cet état d'esprit naît là, et on va avoir des Mourning, des Tim Hardaway, vous parle aussi, meneur.
Bien sûr.
Ouais, donc très rapide, etc. Et puis, bah, un représentant sous-estimé, mais qui est tellement important, c'est Udonis Haslem.
Effectivement.
Le daron.
Qui a, il a rejoint le staff cette année, je crois. C'est sa dernière année, l'année dernière.
Il a fini quoi, 42 ans, un truc comme ça, l'année dernière. Bon, oui. Il jouait plus beaucoup. Même.
Il aurait pu s'arrêter 5 ans plus tôt, ça aurait pas changé grand-chose.
Bah, oui, après, je pense que sur le banc et dans les vestiaires, il a dû jouer son rôle de paternel, de vétéran,
un peu le joueur coach
de la famille,
en fait.
Ouais. Ouais, il mettait des claques quand il fallait aussi, au charbon, il rentrait. C'était vraiment une figure emblématique du Heat. Et c'est vrai que bon, tout ce florilège de joueurs un peu dur au mal, un peu sous-coté parfois, on parle d'underdogs. Hein, des gars qui viennent de nulle part, qui sont pas draftés.
Des mecs pas draftés.
C'est vraiment le label Miami. Alors, on pourrait parler de Heat Culture aussi avec Spoelstra, puisque aujourd'hui, on a Jules César chez les Romains, Napoléon chez les Français. Mais Spoelstra, aujourd'hui au basket, qui peut battre Spoelstra en tant que coach? Il te donne une équipe de chèvres, tu lui donnes une équipe de chèvres, il va les rendre compétitifs quand même, parce que les chèvres ont la rage.
Ouais, c'est clair.
Hein, donc, qu'est-ce que vous en pensez, Mathéo? Spoelstra.
Moi, je pense que c'est le meilleur coach en ce moment en NBA. Après, je suis peut-être pas objectif parce que c'est mon équipe préférée, mais je pense que c'est le meilleur coach niveau technique. C'est celui, je trouve, qui est le plus compétent. Après, c'est peut-être pas quand même le meilleur de tous les temps, parce qu'il y a plein de bons coachs, Greg Popovich et tout. Mais je pense qu'il va rentrer dans le fame.
Oh bah, il le mérite. Hein. Puis coachs. On voit comment il a tendance à remporter ses confrontations contre les grands coachs chaque année à l'Est, en tout cas dans la conférence Est. Tout le monde a peur de Miami. C'est ça qui est rigolo avec cette équipe. C'est une équipe qui va arriver mal classée, qui va se qualifier péniblement.
Blessée aussi.
Blessée avec des joueurs, donc toujours diminués. Mais c'est ce qu'on dit, hein. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Et Miami, c'est un petit peu le... Je pense que le prochain play-off, là... Ils sont en train de nous faire la même saison que l'année dernière. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Ça y ressemble un peu.
Sûr. Voilà, ils n'ont pas joué au complet. Là, Adebayo et Hero sont venus. Butler a rejoint l'infirmerie. Mais cette équipe au complet, au mois d'avril, clairement, elle fait peur quand même à beaucoup de monde.
Bien sûr, hein, ouais.
Si ça se qualifie au play-in tournament, Harry craque comme Harry crack, l'année dernière.
Ouais, ils ne feront pas toujours des miracles comme ça. Ils ont fait des saisons sans aussi. Sûr. On termine cette émission par juste un petit mot sur Rémy Rakes Jr., qui est le bébé. Alors, on a dit que Miami s'était appauvri au niveau de l'effectif cette année parce que ils ont perdu des joueurs importants. Mais Rémy Rakes Jr., les gars, aujourd'hui, on parle de... Alors, Wembanyama et Holmgren sont tout en haut, mais derrière, c'est peut-être le meilleur rookie, non? Derrière eux.
Moi, je pense.
Il a été élu meilleur rookie de novembre, c'est de l'Est, ouais. C'est totalement mérité. Il est hyper polyvalent, c'est un joueur qui prend des shoots, il défend, et ça fit super bien avec Adebayo quand il joue avec Adebayo, ça fit super bien avec Butler quand on voit qu'il y a déjà des connexions, et ça fait plaisir à voir, c'est clair.
Ce qui me rassure en tant que fan de Heat, c'est me dire que Butler, qui commence à être vieillissant, va pouvoir quitter le club par la suite en laissant derrière lui, dû à son héritage, dans les mains d'un trio qui est jeune encore, Adebayo, Hero, Rakes Junior. Waouh, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pour, sachant qu'ils n'ont pas réussi à faire venir, ça c'est un sujet aussi, les Lillard, etc. Chaque intersaison, on leur promet des grands joueurs. Patraillé, ça fait quand même un moment. Patoche, il va falloir se réveiller un petit peu, là, se sortir les doigts et nous faire venir quelques joueurs... De au standing, mais a priori, le coaching staff pense toujours que l'équipe est compétitive sans avoir besoin d'aller chercher.
Son finaliste l'année dernière, il n'y a pas le feu.
Il faut au lac, on est d'accord.
Même si c'est toujours un peu trop juste pour aller gagner la bagouze.
On est d'accord, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Est-ce que vous avez une petite dédicace à faire avant de rendre l'antenne à Rémy qui est à côté de moi et... Rémy ?
Gabriel Union qui m'écoute.
Ouais. Oui, là, c'est la femme de Dwayne Wade. Oui, Rémi nous a scandé sa passion pour la femme de Dwayne Wade. Il aime bien les cougars, Rémi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ce qu'il disait qu'elle avait 10 ans de plus que lui. Ok, donc une dédicace à Gabriel Union. Si tu nous entends, Gabriel.
Gabriel. Moi je suis un mec, je suis un local, donc je vais passer une dédicace à la ville de Douai.
Très belle ville de Douai.
Je suis sûr qu'il y a des gens de Douai qui nous écoutent.
Forcément.
C'est qu'à 2 heures de Compiègne après tout.
Ouais, exactement. Ouais. Romain
Pareil, mais donc Lille, Douai, ma copine qui doit m'écouter certainement.
On espère.
Passe la dédicace.
Ok, Mathéo.
Moi je fais une dédicace à tous mes copains, Thomas qui m'écoute, Raphaël. Isaac, je crois que peut-être, je sais pas, peut-être pas. Et puis tous mes copains du basket et tout.
Ok, moi je termine simplement en faisant une petite dédicace à mon petit papa qui était pas en très grande forme il y a une semaine de ça, mais qui se remet parce qu'il a la hit culture en lui, mon père qui est un combattant. Donc je lui fais un gros bisou à lui et à ma maman, et puis évidemment à toute la familia. Merci de nous avoir écoutés, merci mes invités, c'était vraiment un vrai plaisir. Et je laisse la parole à Can You Dig It Radio Show.
Dans un instant, c'est Diggers Réunion, la réunion des émissions vinylistiques de Radio Graphite. T'inquiète, mais parmi les émissions, il y a Can You Dig It, donc t'inquiète, Pascal, ah, tout va bien. On se donne rendez-vous. Attends, alors Money Time, c'est dans...
Peut-être dans 15 jours.
Peut-être dans 15 jours.
Pour une version light.
Ok, de toute façon, on vous tient au courant.
Ouais, on vous tient au courant très rapidement. Merci à tous.
Merci.
Salut.
Salut.